C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Victor Hugo. Il faut écouter les anciens, les auteurs, les arbres, le vent, les fleuves et les mers, donc. Cette citation de Victor Hugo, c'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas, est en exergue du récit de Camille de Toledo, Le fleuve qui voulait écrire, que l'on peut lire à tout moment, mais tout particulièrement en ces jours où se tient à Glasgow la COP26. Bonjour Camille de Toledo.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, plasticien, enseignant, vous avez fondé la Société européenne des auteurs pour promouvoir la traduction comme langue, et depuis 2-3 ans, vous avez initié les auditions du Parlement de Loire pour réfléchir à la personnalisation juridique des éléments de la nature et à la mise en place d'institutions inter-espèces. Et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Mais quand même, c'est très beau ce que dit Victor Hugo.
C'est magnifique. En fait, on voit à travers cette parole de Victor Hugo ce grand moment du romantisme européen qui s'était mis à l'écoute après le cartésianisme et l'abstraction de la Révolution qui s'est retournée vers les éléments, vers le vent, les montagnes, les rivières, les lacs. Et c'est dans la phrase de Hugo même, cette grande écoute.
Les fleuves charrient les idées, mais les fleuves charrient les idées aussi bien que les marchandises, disait aussi Hugo. Il y a un souci particulier chez lui en plein 19e siècle pour la nature.
Je crois qu'il y a en fait régulièrement de l'intérieur de ce qu'on va appeler traditionnellement l'Occident, des moments de prise de conscience de ce qu'un anthropologue comme Philippe Descola nomme la séparation, le grand partage entre nature et culture. Régulièrement, on a eu le moment expressionniste allemand dans l'Allemagne des années 20, weimarienne. On va avoir régulièrement des moments, le surréalisme également se rouvre en fait, en quelque sorte à des savoirs qui sont contestés par le savoir scientifique occidental. Donc sans cesse, en fait, il y a ce grand retour où on ouvre des portes, on ouvre des fenêtres pour se mettre à l'écoute des écosystèmes, des milieux, des éléments, du feu. Et là, en ce moment particulièrement, je trouve qu'il
oui,
y
nous
a,
y sommes.
Nous
donc.
Y sommes. Je pense qu'on a un autre cycle comme ceci. Ouais.
Alors, sous le patronage de Hugo, vous publiez Le fleuve qui voulait écrire, que vous présentez comme un livre processus, car vous avez créé, on va le raconter, vous avez créé une commission constituante en vue de créer un Parlement de Loire. Et alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas tout à fait la géographie française, la Loire, c'est le plus grand fleuve du pays. C'est 1000 kilomètres qui séparent le nord du sud du territoire et c'est une frontière à la fois physique, culturelle, linguistique et symbolique. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette commission avec ce Parlement, enfin pour constituer ce Parlement de Loire, Camille de Toledo ?
Disons qu'on est dans ce que j'appelle ce soulèvement légal de la Terre. Depuis le début du XXIe siècle, et là sur tous les continents, depuis l'Afrique jusqu'à l'Amérique latine, l'Océanie, l'Amérique du Nord désormais, le Canada, on voit des écosystèmes, des milieux qui accèdent à ce que vous avez nommé justement la personnalisation juridique des éléments de la nature, c'est-à-dire en fait des rivières, des lacs, des forêts, des écosystèmes, des espèces parfois animales ou végétales qui accèdent au statut de sujet de droit, alors que de l'intérieur du droit moderne, ce sont des éléments qui sont traités d'habitude comme des choses ou des ressources ou des objets. Et donc qu'est-ce que ça devient un monde où les éléments de la nature deviennent des sujets de droit. Et voilà, c'est en fait dans le sillon de cette grande bascule légale qu'on s'est mis à travailler avec des Ligériens de cœur, des gens qui sont de Tours notamment, avec Maud Le Floch qui dirige le pôle art et urbanisme, pour essayer de réfléchir à cette bascule du droit et pour essayer de voir si de l'intérieur du droit français, du droit européen, on pourrait également participer à ce soulèvement légal de la Terre et donc à faire de la Loire ou de Loire un sujet de droit.
Et donc pendant 2 ans à peu près, vous avez écouté des philosophes, des juristes, des ingénieurs, des chercheurs en écologie pour savoir ce qu'ils pensaient sur cette question. C'est un sujet politique et juridique, mais Entendre le fleuve, est-ce que ce n'est pas aussi une idée de poète? Je m'adresse à vous, Camille de Toledo, écrivain. Pourquoi un écrivain se lance dans cette histoire-là?
Oui, c'est la beauté peut-être du moment, parfois un peu tragique, que nous avons à vivre là, en fait. C'est que des savoirs poètes, ou des savoirs chamaniques, ou des savoirs d'autres formes de culture, en fait, des savoirs indigènes, en fait. Et le poète est toujours peut-être celui qui rappelle, en fait, des savoirs autres, qui ne sont pas des savoirs positifs de l'intérieur de sociétés qui sont devenues très séparées, je le disais, de la nature, etc. Et donc, le savoir poétique, aujourd'hui, est curieusement, assez joliment, rejoint par des savoirs scientifique et politique. C'est-à-dire, l'anthropologie est en train de changer, on se remet à écouter la nature, on pourrait penser aux travaux d'éthologues, de botanistes, en fait, de l'intérieur des sciences dures, ou des sciences humaines, ou des sciences sociales, il y a cette bascule, ce changement, et en fait, curieusement, on se met à s'interroger sur des processus de traduction depuis d'autres voies, d'autres formes de langage, que ce soit des langages animaux, des langages des milieux, des langages des écosystèmes. C'est ça que l'on fait lorsque l'on écoute également les soulèvements légaux de la Terre dans le cadre de la COP26, c'est-à-dire que les chefs d'État eux-mêmes s'en remettent en quelque sorte à ce savoir poète, c'est-à-dire qu'ils écoutent les tornades, ils écoutent les changements du courant. En fait, le monde politique aujourd'hui est forcé de se mettre à l'écoute, ce que, il y a encore quelques années, peut-être seul le poète aurait fait.
Et vous, ça vous oblige à aller du côté de la science, à aller du côté des sciences dures, justement?
Alors, moi, j'ai toujours, d'abord parce que j'avais un professeur de philosophie qui m'a initié à ces questions, j'ai toujours associé ou pensé l'histoire des formes esthétiques, poétiques et littéraires en rapport au changement de paradigme scientifique. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on peut lire Faulkner et Tandis que j'agonise si on n'a pas en tête que Einstein a révolutionné la physique avant et pendant la Première Guerre mondiale. On ne peut pas dissocier ces choses. On ne peut pas comprendre le cubisme en peinture si on n'a pas en tête la psychanalyse qui vient fracturer l'ego et le sujet et créer des perspectives. Et donc il y a ces ponts, ces passerelles permanentes entre l'histoire des sciences et l'histoire des formes. Et c'est vrai que le fleuve qui voulait écrire ce livre est vraiment à l'intersection de ça, un changement dans les manières de décrire le monde par la science et une manière, disons, d'engager la littérature dans ce changement que l'on va qualifier de transition ou de changement de civilisation pour se mettre à l'écoute des droits de la nature.
Du langage des arbres, des fleuves et des éléments, voilà la question aujourd'hui. Nous allons être à l'écoute, mais comment ne pas céder d'abord à Étienne Dao, nouvel album annoncé pour ce mois-ci en avant-première, un titre, Virus X.
Flamme orageuse, solitaire, héroïque, disperse dans l'océan ses poèmes organiques, l'azur fou de tes yeux m'a lancé un défi et je lèche le sang de cruels ennemis. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus ex. Virus X, ton cœur bat la chamade, zigzag les yeux bandés, j'échappe à l'embuscade, le plus sûr des réflexes serait de vite fait tracer. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus X. Virus X. intoxiqué par ton virus ex. Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent. Virus Saint-Malo, rose pâle, virus se déplie, se réveille. Nul besoin de me contaminer. Saint-Malo, rose pâle, se déplie, se réveille.
Sur RFI, le virus ex d'Étienne Dao et les mots du fleuve Loire avec votre livre, Camille de Toledo, Le fleuve qui voulait écrire, livre qui met en récit les auditions destinées à la création d'un parlement de Loire et à la reconnaissance du fleuve comme personne juridique. Alors, il faut quand même rappeler qu'un fleuve personne juridique, ça existe déjà, en Colombie notamment.
Oui, c'est ça. Il y a eu un certain nombre de décisions qui sont parfois des décisions de juges ou des législateurs hein, qui font la loi. Donc il y a eu la Nouvelle-Zélande, dont on avait quand même pas mal parlé, elle avait fait parfois la une de certains journaux. Donc la Whanganui, ou la Whanganui, ça dépend comment on la prononce, de la Nouvelle-Zélande, qui est le troisième fleuve le plus long du pays. Ensuite il y a eu l'Atrato, vous disiez, la Colombie, il y a eu récemment au Canada le Magpie. Donc on voit en fait, enfin il y a une sorte d'international des rivières assez impressionnant qui se déploie depuis quelques années.
Et peut-être bientôt donc la Loire. Alors votre récit, Camille de Toledo, part d'une hypothèse. Et si la nature était dotée du langage ? Alors à vous l'écrivain, quelle langue parle la Loire ? Incontestablement, c'est une langue millénaire.
Ça c'est sûr. D'ailleurs, à la fin, il y a tout un texte où la Loire prend la parole. En fait, donc il y a un monologue du fleuve qui vient un peu poser des questions sur les questions que les humains se sont posées à son chevet. Je crois que c'est même pas un et si en fait, c'est la phrase de Hugo. Hein, mais la nature parle. La biosémiotique nous enseigne ça. La biosémiotique, c'est quoi ? C'est en fait qu'on va réintégrer le langage humain dans un vaste système de signes. Et là, de manière grand public, on sait par exemple que le livre de Peter Folleben sur la manière dont les arbres se parlent, la vie secrète des arbres, donne ça en fait, dit ça. C'est que lorsqu'on est botaniste, on peut tout à fait se mettre à l'écoute d'une forêt. On sait à peu près ce qu'elle échange, les informations qui sont échangées, la façon dont ça communique, dont ça parle. On sait également qu'il y a des langages qui sont parlés entre les forêts et le ciel. Le fait que la forêt elle-même peut appeler la pluie, en quelque sorte, par un certain nombre d'émissions, donc des échanges biochimiques. Donc en fait, le langage humain qui, longtemps, dans nos systèmes politiques, a été vu vraiment comme le propre de notre espèce, Anthropos, en fait, étant un peu enlevé de son piédestal. Désormais, on le réintègre dans un vaste système de signes. Et c'est cette réinscription qu'on a tous et toutes à faire, hein, d'une certaine façon. Quand on cherche à réinscrire les économies dans l'économie terrestre, c'est ça aussi qu'on fait lorsqu'on cherche à réduire ou à changer les processus de production. Voilà. Donc on voit que ça, cette réinscription dans un langage plus vaste, c'est en cours.
Mais c'est réinscrire, c'est aussi traduire.
Et c'est donc bien évidemment, puisqu'il faut effectivement faire rentrer là dans la manière dont on a simplement de séparer, c'est que les humains, ce qu'ils font en plus des autres espèces, c'est qu'ils ont des symboles, donc des alphabets ou des algorithmes ou des codes. Donc il va falloir transcoder, il va falloir transformer ce que l'on arrive à analyser scientifiquement d'un bassin versant, d'une rivière, d'une forêt, etc., les besoins, les valeurs, les droits, il va falloir les transcoder dans des langages humains.
Parce que reconnaissez que dire Loire, vous dites Loire d'ailleurs, vous dites non, pas la Loire, pourquoi pas l'article ?
Ça s'est progressivement établi au fil des auditions, puisque le philosophe Bruno Latour, qui nous a aussi accompagnés, qui a inauguré ces parlements de Loire, en fait, s'est mis à dire Loire comme si c'était en faire une instance plus sujet. Loire veut, Loire peut. Voilà, donc l'article est tombé. Là, voilà. Puisqu'en fait, l'enjeu de tout ça, c'est est-ce que nous sommes prêts, de l'intérieur de nos diverses formes de société, qu'elles soient animistes ou techniques, naturalistes comme ici, est-ce qu'on est prêt à accompagner cette bascule des choses vers des sujets ? Est-ce qu'on peut, en fait ? Et en fait, il y a un enjeu très fort, je me permets de le souligner, parce que là, on voit beaucoup de chefs d'État qui sont réunis à la COP26. En fait, la question avant la personnalisation juridique des éléments de la nature, c'est est-ce que les États sont de bons gardiens ? Et en fait, les États, on le sait, ne sont pas de bons gardiens. C'est-à-dire qu'ils sont sous la pression des marchés, sous la pression d'une économie, des objectifs de croissance, etc. Et donc, en ajoutant des sujets de la nature, on va permettre en fait que ces besoins, ces valeurs et ces perspectives des entités naturelles, notamment donc terrestres, puissent être pris en compte. C'est ça le grand enjeu, c'est d'ajouter un tiers acteur.
Mais reconnaissez quand même que dire « Loire parle », « Loire est une personne ou un personnage », ça peut paraître un peu farfelu.
En fait, souvent, il y a deux juristes qui mènent une magnifique audition pour celles et ceux qui nous entendent. Je vous invite vraiment à découvrir toute cette bascule du droit. Pour vous répondre, on pourrait dire que les juristes se disaient la même chose pour une entreprise à la fin du 19e. Est-ce que Coca-Cola parle ? Je vous pose la question.
Est-ce que Coca-Cola parle ? J'ai envie de dire non.
Pourtant, les juristes à la fin du 19e siècle ont répondu oui pour les entreprises. Puisqu'ils ont donné des droits au capital, ils ont donné des droits aux actionnaires, ils ont donné des droits aux entreprises. Et ils ont utilisé cette même mécanique qui est la fiction juridique. C'est-à-dire qu'on va mettre un masque et on va dire là, il y a une personne. Donc, en fait, les grandes entreprises, ont accédé au statut de sujet de droit à la fin du 19e. Et on ne peut pas comprendre l'histoire, disons, folle du capitalisme si on n'a pas ça en tête. Le droit, à un moment donné, a décidé que des entreprises, des groupements d'actionnaires étaient sujets. Et à partir du moment où ils sont devenus sujets, ils ont acquis des droits. Et le jeu, l'enjeu de ce soulèvement légal de la Terre, c'est de se dire, puisque les entreprises et les États sont des sujets de droits, il faut absolument que nos écosystèmes, nos milieux deviennent également sujets de droits pour qu'ils puissent se défendre.
La nature est sujette et suffragette. Dites-vous dans ce texte, par un jeu de mots assez habile.
Oui, mais c'est une manière de faire écho en fait, au premier juriste Christopher Stone qui a travaillé cette bascule du droit, puisqu'il disait en fait, mais vous voyez, pendant des siècles, certains sujets humains étaient traités comme des choses. Et il prend l'exemple de l'esclavage, où il parle également du droit des femmes. Il dit, mais pendant des générations, les femmes étaient considérées comme des demi-choses. Elles étaient la propriété, d'une certaine façon, de leur père ou de leur mari. Et elles sont devenues des sujets. Donc, en fait, Stone nous aide à comprendre que ce qu'on appelle en droit la summa divisio, c'est-à-dire la division entre sujet et objet, est une chose qui est perméable. On peut passer d'une colonne à l'autre à condition qu'il y ait les luttes sociales. Et là, on voit actuellement que la nature est devenue une force sociale et donc, progressivement, que les éléments de la nature sont en train de passer de la colonne des objets à la colonne des sujets et donc aptes à défendre leurs droits en justice, notamment.
Alors, pendant les deux ans où vous avez mené ces auditions pour le Parlement de Loire, Camille de Toledo, il y a eu un certain nombre de penseurs invités. Il y a eu, bien sûr, Bruno Latour, que vous citiez à l'instant, qui est un anthropologue et philosophe des sciences, et qui est à la pointe de cette réflexion.
Il faudrait peut-être qu'on s'entende, je veux dire, parler. Il suffit d'entendre parler un hautonnier ou d'entendre parler un pêcheur pour avoir des paroles mixtes. Donc, ce n'est pas que le mandat est mixte et que le mandataire lui-même est mixte. Quand on dit « Loire déborde », on lui attribue ce qu'en anglais on appelle « agency » et qu'on traduit en français par « puissance d'agir ». Donc, il n'y a pas une expression qui ne donne la puissance d'agir déjà à des êtres non humains. C'est la chose la plus banale qui soit. Et je crois qu'il serait assez erroné de considérer qu'un Parlement de Loire est une nouveauté juridique radicale. C'est au contraire la simple expression d'une puissance d'agir que nous reconnaissons dans chaque parole que nous énonçons, puisque tout le monde sera bien d'accord que la Loire a un comportement. Et avoir un comportement, c'est une façon de dire le mot « parler ». Donc « parlement », ce n'est pas forcément des gens qui causent, ce n'est pas un argument de « tchatch ». C'est un argument de reconnaissance de l'hybridité fondamentale des comportements.
Bruno Latour, auditionné par la Commission pour un Parlement de Loire. Donc, c'est une invitation à écouter, à prêter attention aux êtres et aux choses et à arrêter de réifier le monde. Ce mot un peu précieux qui fait qu'on transforme tout en choses. Non, vous proposez davantage, Camille de Toledo, de le réanimer.
Oui, je dis parfois aussi que dans le sillon, d'ailleurs, des paroles qu'on vient d'entendre, qui justement disent que tout ça n'a rien de farfelu, c'est au contraire très, très cohérent par rapport à la manière dont le monde fonctionne. Non seulement les entités parlent, on a à les traduire, mais en plus, en fait, on a à repenser nos édifices juridiques institutionnels sur le modèle de l'esprit des lois et de la balance des pouvoirs. C'est-à-dire qu'en fait, l'hubris humain n'a pas de limite. On le voit, en fait. L'Anthropocène, la crise terrestre, la crise bioclimatique, c'est ça. C'est en fait qu'on pousse à bout un hubris humain, des droits humains, qui viennent finalement mettre en danger, en péril, l'habitabilité de la Terre. Et donc, en fait, notre travail, presque de sagesse, mais de droit, de juriste, c'est de dire comment est-ce qu'on rééquilibre ça depuis les droits de la nature. Et c'est finalement ce qui est en train de se passer. Et j'invite simplement, moi je trouve qu'on est encore très, très en retard, en fait, en Europe, par rapport à ce qui est en train de se passer dans d'autres, sur d'autres continents.
Mais c'est un point de vue animiste que vous défendez.
Et c'était un point d'ailleurs que je voulais soulever, c'est qu'en fait on est déjà en société animiste, puisqu'on parlait de Coca-Cola tout à l'heure, mais les marques, on ne cesse de faire parler les marques. En fait, lorsque quelqu'un qui est directeur de la communication d'une grande société dit voilà, je suis le représentant, le porte-parole, je suis le porte-parole de... On voit bien qu'il parle depuis, qu'il parle dans la perspective de quelque chose qui est une fiction, qui n'existe pas, qui est une marque. Et donc, on voit qu'on est déjà, le système capitaliste est un vaste système animiste.
Mais dans les cultures où l'animisme est très présent et fondateur, les arbres ont des âmes, alors, voilà. Les objets aussi ont des personnalités.
Alors c'est là où justement, d'ailleurs, l'anthropologie symétrique de Bruno Latour ou l'anthropologie de la nature qui va donc se développer chez Descola ou chez Viveiros de Castro, en fait, sont si importantes. C'est que ça nous permet de nous remettre à l'écoute d'autres, c'est ce qu'on appelle des ontologies, c'est-à-dire on va se mettre à l'écoute de systèmes de sociétés animistes ou totémiques ou autres, parce qu'eux nous aident, depuis leur système de croyance ou de lien ou d'attachement au monde, à réincarner, à réanimer en fait ce qui a été désanimé par le droit moderne. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a une hybridation du droit moderne désormais par... ces perspectives nouvelles qui sont des perspectives propres des milieux, des écosystèmes, des espèces, etc. Et c'est ça qu'on va voir, je crois, dans le siècle à venir. C'est la montée en puissance de ces droits de la nature.
Dans ce livre, Camille de Toledo, le fleuve qui voulait écrire, vous proposez la création d'un service public de l'imaginaire. On est très très loin de la COP26.
Alors, c'est ce petit... Oui, c'est une pratique que j'ai depuis maintenant 2008. Je vous l'avais dit, j'avais créé la Société européenne des auteurs pour réfléchir à ce que serait un espace politique où on parlerait une langue qui serait la traduction. Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ça créerait comme identité politique, ça? Des multiplicités, de tolérance, de respect des altérités et autres. Et là, c'est vrai qu'on a créé un autre service public de l'imaginaire avec le Parlement de Loire, c'est-à-dire pour mettre à la disposition de celles et ceux qui suivent ce projet ou qui désormais liront le livre, mettre à la disposition tous les outils à venir ou déjà présents du droit pour transformer nos sociétés, par les fictions juridiques.
Camille de Toledo, on évoquait les arbres qui peuvent ou qui ont une âme. Le langage courant y fait parfois allusion. C'est la puce avec Lucie Bouteloup. Toutes les semaines, une expression populaire décortiquée avec intelligence et humour.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Vous en touchez?
Et oui, j'avoue, et pour mettre toutes les chances de mon côté, j'en touche souvent. Mais de quoi s'agit-il? Du bois, bien sûr, Pascal. Toucher du bois, donc. Voilà l'expression sur laquelle je reviens aujourd'hui avec la romancière et dramaturge Nathalie Gendreau. Mais avant que cette ancienne collaboratrice d'Alain Rey ne nous livre les secrets de cette expression, on écoute les propositions de deux délicieuses ados.
Toucher du bois, c'est quelque chose que tu peux faire facilement parce que en fait, toucher du bois, t'as juste à aller en forêt et en toucher. Pour moi, c'est pour se porter chance. Donc, par exemple, quand on dit je touche du bois, c'est un peu une croyance, je me protège. Comme le bois, c'est une matière qu'on utilisait beaucoup et qui servait à faire beaucoup de choses, peut-être que donc ça portait chance d'utiliser le bois.
Peut-être que dans le futur, vu que déjà on détruit beaucoup d'arbres en ce moment et que maintenant nos matériaux sont surtout en plastique ou des trucs comme ça, et peut-être que ça veut dire que c'est quelque chose de ultra rare et que t'es très privilégié. Donc, on dit toucher du bois, on a la chance.
Peut-être parce que avant, la vie était plus dure et beaucoup de choses étaient construites en bois. Peut-être que quand on avait du mal, les outils étaient en bois et du coup on se raccrochait à ce qui était construit en bois pour réussir à te sortir de la misère, quoi.
La puce à l'oreille.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, toucher du bois ?
Alors, c'est une expression qui ne ressemble pas aux autres, puisqu'elle n'est pas du tout métaphorique. Simplement, elle désigne le geste de toucher du bois pour se porter chance.
Ça veut dire donc se porter chance, se protéger, c'est un petit peu comme pour chasser le mauvais œil, en fait.
Exactement, conjurer le mauvais sort.
Conjurer le mauvais sort. Alors, d'où ça vient donc cette expression « toucher du bois » ?
Alors, c'est une expression qui donne du fil à retordre aux linguistes, parce qu'en fait, on ne sait pas. Pour être honnête, il existe de nombreuses théories. En fait, ce qui est intéressant de retenir, c'est que le bois est ancestralement une matière retenue comme magique, parce que
comme
les
sacré.
Grands arbres, oui, comme sacrés, et même ayant une certaine forme de pouvoir, parce que les grands arbres, comme les chênes, sont ceux qui reçoivent le plus la foudre, puisqu'ils sont au-dessus de tout le reste. Et en même temps, ce sont ceux qui ont les plus grandes racines, qui vont loin dans le sol. Donc quand on touche un grand arbre, on touche à la fois quelque chose qui est en relation avec les forces terrestres et les forces célestes.
Donc quelque chose qui est plein d'énergie.
Exactement. Et c'est pour ça, en fait, probablement qu'on la retrouve, cette croyance, dans toutes les cosmologies anciennes, les Celtes, les Grecs, les Égyptiens, les Perses. Donc en fait, on ne sait pas du tout si ça vient, ça peut venir de la croix du Christ, ça peut venir des chênes celtes, on ne sait pas en fait. Il y a une théorie qui dit que ça viendrait des Grecs, puisqu'on retrouve la croyance dans le chêne sacré dès l'âge du bronze, hein, dès moins 1500 dans le nord-est de la Grèce, avec le sanctuaire de Dodone, le premier oracle grec, où une prêtresse se plaçait sous un chêne et écoutait le vent dans les feuilles du chêne pour comprendre la pensée de Zeus.
Alors, toucher du bois, une croyance qui remonte donc à l'Antiquité, comme vous le disiez, Nathalie Gendreau. Mais alors, l'expression en elle-même, elle est utilisée depuis quand ?
Alors, l'expression est plutôt récente hein, dans notre usage, puisqu'on l'emploie depuis le début du XXe siècle.
Et alors, quand on ne touche pas de bois, eh bien, on peut toujours se toucher la tête. D'ailleurs, on dit parfois de certains qu'ils ont une tête en bois pour dire qu'ils sont têtus.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme croiser les doigts, conjurer le mauvais sort ?
Prier pour.
Dans le nord de la France, on parle de toucher de la peau de singe.
Ah, intéressant.
Et dans le reste du monde, figurez-vous qu'on touche du bois un peu partout, où on en frappe, ce qui revient à peu près au même. C'est le cas en Allemagne, mais aussi en Bulgarie. Quant aux Polonais, eux, ils précisent que le bois doit être non peint. Bref, à chacun sa méthode, Nathalie Gendreau. Merci d'être venue nous rendre visite dans la puce. Je rappelle aux auditeurs que vous avez fait paraître avec Stéphane Marie 150 drôles d'expressions pour cultiver son jardin et que c'est paru aux éditions Le Robert. Merci et à très bientôt pour une nouvelle expression.
Merci Lucie.
Merci à toutes les deux. Touchons du bois, Camille de Toledo. À quelle échéance pensez-vous que le Parlement de Loire sera constitué ?
Alors,
sera-t-il constitué ? Êtes-vous un optimiste ? Parce qu'on est à l'entrée d'une campagne électorale pour les présidentielles. Ça pourrait être un débat, ça n'allait pas tout à fait. Mais on continue à bétonner. Je pense à l'île Seguin, juste à côté d'ici, où on construit des bureaux.
Non, il y a deux questions. C'est le Parlement de Loire, pour filer ce que disait Bruno Latour, il est déjà là d'une certaine façon, ça parle déjà. Il y a beaucoup de riverains de Loire, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de militants, il y a un maillage très serré d'institutions qui gèrent le fleuve. Voilà. En fait, donc, c'est une matrice pour changer le projet du Parlement de Loire. Après, il y a une autre question, c'est à quel moment on va voir progressivement des personnalités juridiques de la nature émerger en Europe ? Et ça, je dis parfois en souriant qu'il a fallu, entre le moment où la Nouvelle-Zélande a donné le droit de vote aux femmes, c'est-à-dire à la fin du 19e, et le moment où en France ça a été reconnu, il a fallu plus de 50 ans. Donc peut-être que, comme la Nouvelle-Zélande a donné le statut de sujet de droit à une rivière, peut-être qu'il faudra encore 50 ans, mais j'espère que ça ira plus vite cette fois-ci.
En tout cas, nous sommes au début. Merci beaucoup Camille de Toledo. Le fleuve qui voulait écrire est édité par Manuela Édition et par Les liens qui libèrent. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo et Louise Kalidek, Guillaume Ploquin à la réalisation. On se retrouve demain.